Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
J'ai pas ma Bible, je pensais que je l'avais laissée sur le pupitre. Fait que je vais aller me chercher d'autres passages que je vais avoir besoin durant mon message. Ah, ils sont déjà excellents. Jean 18, verset 28 à 38. Que vous saviez que les Québécois ont la réputation d'être heureux? Hein, c'est cool ça! Il y a eu un livre qui a été écrit récemment, que ça s'appelle « Le Code du Québécois ». N'avez-vous entendu parler? C'est, dans le fond, ils ont trouvé l'ADN, puis il y a 7 caractéristiques qui définissent le Québécois typique. Et puis une de celles-là, que je retiens, c'est que le peuple québécois est un peuple heureux. On peut faire avancer la CETAP. Facebook. Ça sera pas vraiment long. Je vais vous lire la citation en attendant que Juliane va trouver le PowerPoint. Au Québec, tout est un prétexte pour faire la fête. Nous sommes de bons vivants. Nous aimons passionnément nos vedettes, notre équipe de hockey, nos émissions de télévision, nos humoristes et la bonne bouffe. La joie de vivre est au cœur de la différence québécoise. Et un des auteurs, qui s'appelle Jean-Marc Léger, a dit « Un des aspects qui distingue le plus le Québec français du Canada anglais est la réponse à la question « Est-ce qu'il est plus important pour vous de vivre le moment présent ou de préparer votre avenir? » C'est quoi, vous pensez? Le moment présent. Le trois quarts des Québécois francophones répondent que le moment présent, c'est la chose qui compte, tandis que dans le Canada anglais, la majorité, c'est de préparer son avenir. Intéressant. Et là, j'écoutais des commentateurs à radio qui commentaient sur le livre, puis ils disaient que les ventes à la SAQ, c'est une différence entre la Société des écoles au Québec puis ailleurs dans le reste du Canada. Nous autres, on a tout un tas d'occasions pour faire la fête. Hein? On est stressé, on boit. On a du fun, on boit. On fait la fête, on essaie de vivre là, ici et maintenant. Il disait aussi que les commentateurs disaient qu'au niveau de la retraite aussi, ça paraissait. Le Québécois, il ne prépare pas vraiment sa retraite, il dépense le crédit, sa relation au crédit, il se fait du crédit, puis il dit ce qui compte, c'est maintenant. Donc, là, il vit sa vie comme si demain ne viendrait pas. Donc, ça, c'est notre Québécois. Puis un commentateur du réseau CNN, le réseau anglais, dit « Pour un Québécois, le plaisir, c'est sérieux. » Alors, comment est-ce que Dieu va venir parler à un Québécois? Parce que c'est ici puis maintenant qui compte. Je veux dire, parle-moi pas de mon éternité, là. Je veux dire, c'est beaucoup trop loin. C'est ici et maintenant. Et Jacques pose la question dans Jacques 4 au verset 13. Il dit, « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, et en effet, qu'est-ce que votre vie, Jacques pose comme question? Il répond, c'est une vapeur qui paraît un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et nous ferons cela. Et donc, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui va être un jour ébranlé. Hein? Mais quand la vie va bien, quand quand tout le vent va dans le sens de nos voiles, je veux dire, on se bâtit des petits royaumes, on s'installe, puis on n'écoute pas nécessairement celui qui nous parle des cieux. On est les capitaines de notre navire, on s'en va sur notre bateau, puis on maîtrise pas mal la situation. Mais comment Dieu va venir parler à quelqu'un qui vit juste le moment présent? Il va venir cogner à sa porte dans la fragilité de la vie. Parce que la vie, elle est fragile. Je pensais juste cette semaine, j'aurais pu avoir ma femme quadriplégique ou décédée là, quand elle a frappé le chevreuil à 100 km/h sur l'autoroute. Là. Je veux dire, c'était plus un sentiment de joie que de crainte parce que c'est elle qui m'appelait au téléphone, c'était pas la police ou l'ambulance. Là, fait que j'étais content de voir qu'il y a juste le char qui va être scrap puis ma femme est dans tout son morceau. Mais j'étais pas ébranlé, mais j'étais rassuré. Mais quand j'ai vu le téléphone sonner à 7h moins quart, j'ai pas dit oui, bonjour, ça va. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles à 7h moins quart comme ça? À part à noirceur, puis elle revient souvent à la noirceur le soir aussi. Puis, la même journée, j'apprenais que mon père était à l'hôpital pour la xème fois. Il était hospitalisé. Il a fait tous les lits de cette chambre. Une chambre à quatre. Enfin, il y a un lit qu'il n'a pas encore fait. Puis là, c'était quelque chose qui était dangereux pour sa vie. Puis, tu te dis, on ne contrôle rien. Je veux dire, notre chaloupe, il y a de l'eau qui rentre dedans. Là, tu sais, qu'est-ce qui pourrait arriver? Tu sais? Et donc, quand la vie commence à nous présenter la mort, la guerre, les accidents, les tragédies, les mauvaises nouvelles, la perte d'un emploi, quand la vie se montre sur son côté un petit peu plus fragile, on dirait que les phrases que le Seigneur nous a dit, que ton règne vienne, prennent toute une autre ampleur. Je me rappelle, jeudi matin, quand j'ai prié que ton règne vienne, comme Jésus nous demande de le faire dans sa prière, c'était plus pareil, c'était pas comme la journée d'avant. Je veux dire, que ton règne vienne, c'est comme un boy qu'on a besoin que tu viennes rétablir ce qui ne marche pas ici. Tu sais. Je pensais notamment à mon père, que je m'inquiétais pour lui. Donc, que ton règne vienne, ça prend toute son importance parce que les fragilités de ce monde viennent comme un avertissement qui nous dise les choses visibles sont pour un temps hein, et ce qui fonde notre vie est testé. Ce sur quoi tu reposes ta vie, ton fondement est testé, il est ébranlé. Que ton règne vienne, c'est aussi, ça vient placer un ancre dans notre âme que la destination ultime de l'homme, la consolation s'il y a une guerre ou une grande déception dans cette vie, la consolation qu'un jour les morceaux vont être remis ensemble, qu'il va y avoir quelque chose de stable, et d'éternel, c'est lorsque Jésus-Christ va régner sur toute chose, sur tout ce qu'il a créé, qu'il va être le roi et qu'il va rétablir la paix dans le monde, puis il va avoir un royaume qui est éternel et qui subsiste. Et donc, dans Hébreux 12, au verset 25, je pensais à ce verset-là en préparation du message, Hébreux 12, 25 dit « Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. » En effet, les hommes ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre et n'en ont pas réchappé. Il parle du peuple d'Israël qui, lorsqu'ils ont vu Dieu parler sur la montagne en feu, sur le mont Sinaï, ils ont reçu les commandements, ils ont reçu qu'est-ce que Dieu s'attendait d'eux. Puis la terre a tremblé aux paroles de sa voix et ils ont détourné leur cœur, ils ont arrêté d'écouter celui qui parlait. Ils ont vécu leur petite vie. Ils ont vécu leur vie comme si Dieu n'avait pas parlé. Et ils ont résisté. Et ils n'en ont pas échappé. Ils sont morts dans le désert, on le sait. Et l'auteur aux Hébreux dit, « Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse. Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Donc, il va y avoir des bouleversements sur la terre et dans les cieux. On lit l'Apocalypse, on comprend un peu qu'est-ce qui va se passer. Les mots, une fois encore, en parlant qu'il va ébranler encore les cieux, la terre, une fois encore indique bien que les choses qui appartenant au monde créé peuvent être ébranlées, elles vont disparaître afin que les inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. On reçoit un royaume inébranlable quand on reçoit le roi de ce royaume-là. Alors, on a reçu le roi de ce royaume-là et on a cru qui il était. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ. Et il nous a donné la grâce de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec respect. On écoute celui qui parle des cieux. On écoute ce qu'il dit dans sa parole. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Je vous pose la question, en fait c'est Jacques qui vous pose la question, qu'est-ce que votre vie? Et Jacques de répondre, une vapeur. Dans le grec, c'est atmis. Psst, comme dans la salle de bain. Quand on, tu le vois, mais aussitôt que tu l'as vu, il est disparu. Mais aussitôt que vous êtes là, vous ne serez plus là. Et vous allez être dans l'éternité, vous allez basculer dans l'éternité, dans les choses éternelles, dans les choses qui sont significatives. Et donc, quand vous dites que ton règne vienne, êtes-vous capable de dire, « Sais-tu quoi, Seigneur, tu peux revenir drette là? » Drette là? Tu peux revenir drette là? Non, il faut que je me marie. Ah non, il faut que j'aie des enfants. Non, il faut que je réussisse ce que je suis en train de faire sur la terre. Si je ne suis pas capable de tout cœur de dire, « Seigneur, sais-tu quoi, reviens maintenant. » Il y a quelque chose qui m'empêche de vivre dans les choses éternelles. Il y a quelque chose qui me freine. Là. Je ne suis pas à l'affaire du royaume. Ma priorité, ce n'est pas de voir Dieu face à face. C'est que je refuse d'entendre celui qui me parle. Donc, s'il y a quelque chose qui est là, c'est une idole, et ça mérite d'être mis de côté, puis dire, « Sais-tu quoi, Seigneur, je veux voir ta face, puis je ne veux pas attendre d'être dans un cinquième d'hôpital, là, un cinquième étage, avec du sérum branché, puis que je suis obligé d'arrêter de savoir que tu es Dieu. » Tu sais. Je veux prendre le temps de réaliser que je pourrais le dire, que ton règne vienne. Oui, je suis une vapeur, puis c'est vrai que je vais basculer dans l'éternité. Puis oui, je vais aller contre l'esprit du siècle du Québécois moyen qui dit, moi, je vis pour être heureux maintenant. Puis on verra ce qui se passera plus tard. J'ai parlé à des gens, quand ils étaient en santé, ils disaient, on verra, mais que j'arrive devant Dieu. J'ai parlé à ces mêmes personnes-là sur leur lit d'hôpital, puis ces gens-là disaient, peux-tu répéter? Dieu t'aime trop. Dieu t'aime tellement qu'il ne permettra pas que tu fasses quelque chose pour lui tant que tu ne réalises pas qu'il a tout fait pour toi. Répète. Peux-tu me le répéter? Oui. Dieu ne permettra pas que tu fasses quelque chose pour lui avant que tu réalises qu'il a tout fait pour toi. Ces gens-là ne sont pas les mêmes. J'ai parlé à des gens qui s'ostinaient tout le temps quand ils étaient en santé parce qu'ils avaient raison. Il y avait 3 livres d'épée dans leur bibliothèque. Ils étaient intelligents, ils parlaient 3 langues. C'était des gens qui me parlaient comme si j'étais un petit gars. Mais chute sur la tête, perte de mémoire, traumatisme dans la mémoire, plus capable d'avoir référence à rien. Ils arrivaient pour s'ostiner. Puis finalement, ils écoutaient les paroles de Dieu. Ils se levaient la nuit, lisaient les paroles de Dieu. Ils avaient lu toute la Bible dans son entièreté dans les derniers jours. Écoutez celui qui parle. Dieu vient ébranler les choses qui sont ébranlables afin que les choses éternelles subsistent. Jésus-Christ, c'est un secoueur de royaume. Puis d'ailleurs, le titre de mon message aujourd'hui, c'est ça, c'est « Royaume ébranlé ». Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le roi des rois qui se fait passer devant des petits rois qui sont chacun maîtres de leur domaine, Pilate, Hérode. Mais ils ne sont pas prêts à entendre celui qui parle. Ils ne sont pas prêts à entendre celui qui parle. Il y en a un qui va être diverti. Il va avoir du fun maintenant. Il veut que Jésus fasse des miracles devant lui. Il veut être diverti. Un peu comme l'Église de la fin des temps. Elle veut être divertie. Elle veut que Jésus fasse plein de miracles. Elle ne veut pas l'entendre parler. On va voir Pilate, puis après ça, on va voir Hérode. Après ça, on va revenir avec Pilate, parce que ça se passe comme ça. Mais pour se mettre dans le contexte, on va lire dans Jean, chapitre 18, au verset 28. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait m'amener. Ah, hey, il y a quelqu'un qui a pensé à moi. Tabarouette. C'est cool. Est-ce que quelqu'un pourrait m'amener de l'eau? J'ai oublié de me ramasser une bouteille d'eau. Je vous remercie. Donc, vous êtes déjà dans Jean 18. Je vous rappelle que Jésus a sorti de la maison de Caïphe, dans la cour de Caïphe. Pierre était là devant le feu et Jésus a croisé ses regards. On se rappelle de cette histoire-là. Donc, c'est exactement là qu'on suit. De chez Caïphe, ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit « De quoi accusez-vous cet homme? » Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Les Juifs dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit « Suis-je un Juif, moi? Ta nation et tes chefs de prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Et Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi? » Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Et toute personne qui est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui répliqua « Qu'est-ce que la vérité? » Et sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Très, très intéressant comme histoire. Donc, les versets qui vont être traités, c'est Matthieu 27, 2 et versets 11 à 14, Marc 15, 1 à 5, Luc 23, 1 à 5, Luc 23, 1 à 5, et les versets qu'on vient de lire, Jean 18, versets 28 à 38. Donc, on a vu que dans les procès que Jésus a vécu, il a vécu deux procès, mais en trois étapes chacun. Il y a eu les procès religieux qu'on a vécu, on a vu dans les deux, trois derniers messages. Et aujourd'hui, donc, c'est des procès civils. Ça va commencer avec Pilate, ça va continuer avec Hérode et ça va revenir avec Pilate. Donc, les Juifs ont besoin, pour prouver une trahison, il faut qu'ils réussissent à prouver une trahison contre Rome. Donc, ils vont dire qu'ils se proclament roi. OK? Ils ne peuvent pas juste dire qu'il a blasphémé, il s'est pris pour le Messie, il a blasphémé. Hein? Donc, la condamnation première, quand il était dans les tribunaux religieux, c'était le blasphémateur, mais là, on va devoir changer l'accusation et trouver pour le faire punir. Ça prend une rébellion, une sédition. Sédition, c'est essayer de renverser un roi, un gouvernement. Donc, on essaie de voir en lui quelqu'un qui est un rebelle, mais là, on change. Avant, il était rebelle, il était blasphémateur, puis là, tout d'un coup, on dit qu'il est rebelle, et on change ça pour pouvoir en finir avec Jésus, pour pouvoir le faire crucifier. Il y a deux lois romaines importantes du temps de Jésus. Toutes les comparutions, les tribunaux doivent être faits en public, et contrairement aux Juifs, c'est l'accusation qui vient d'abord, l'accusation en premier, puis la défense. Et Judas a été engagé pour ça. Quand les 400 à 600 soldats sont venus dans le jardin de Gethsémané la nuit passée, ça a été envoyé par Pilate. Donc, il y a eu une autorisation. Et donc, Judas avait servi de preuves matérielles suffisantes, de preuves de témoignages suffisantes pour pouvoir envoyer 400 à 600 soldats. On s'était servi de lui pour savoir où ce qui était dans le jardin, mais on se servait de lui aussi pour qu'il puisse amener l'accusation envers son sauveur, hein, envers Jésus. Mais il s'est suicidé avant le matin. Et on a vu que son corps a été jeté au-dessus de la muraille et il s'est fendu par le milieu. On a vu ça dans le dernier message, mais là, ils n'ont pas personne à produire. T'sais. Fait que s'il n'était pas un malfaiteur, on te l'aurait dit. Ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas de substance et ça les désorganise, pas rien qu'à peu près. Pilate, c'est un citoyen romain qui est né soit en Italie ou en Espagne. Lui, il était procurateur de la Judée de 26 à 36. Donc, il est exactement au milieu de son règne. Et le procès a lieu en l'an 30. Et c'est lui qui a donné son accord, comme je disais, pour les 300 à 600 soldats. J'ai dit 400, mais on arrondit, là. C'est, C'est parce que c'est une légion, ça se trouve, pas une légion, une cohorte, c'est un dixième d'une légion, puis une légion, c'est entre 3600 puis 600 soldats. Donc, on pense à 6000 soldats. Donc, quand que on voit dans le jardin qu'il se fait arrêter par une cohorte, c'est un dixième d'une légion, donc entre 300 et 600 soldats. Et donc, au lever du soleil, il est déjà là. Pilate est déjà là, il est habillé, il est prêt à s'asseoir sur son trône, c'est sûr, parce que lui est envoyé, normalement il est envoyé pour le faire arrêter, donc il s'attendait à avoir un procès le matin. Ça se passe où? Ça se passe au palace de Pilate. Et donc les prêtres restent dehors parce qu'ils ne veulent pas se souiller, ils veulent offrir la Pâque. Et donc on se rappelle que la Pâque, la veille, ça se passe dans les maisons. Puis le jour de la Pâque, à 3 h l'après-midi, le grand prêtre offre le sacrifice du Yom Kippour, qui se trouve être le sacrifice pour tout le peuple. Et donc, le grand prêtre et les prêtres vont manger de cet agneau-là plus tard dans la journée, mais ils ne veulent pas se souiller parce que, dans leurs règles, quand tu vas chez un non-juif, tu te souilles. C'est pas, la loi ne disait pas ça, mais les Juifs avaient fait des règlements comme ça. Et donc, ils ne veulent pas rentrer dans la cour de Pilate. Okay. Et là, Pilate va suivre le protocole au verset 29. Pilate sortit donc à leur rencontre. De quoi accusez-vous cet homme? Donc, d'abord, les chefs d'accusation qui viennent. Judas n'est pas là, il s'est suicidé. Et regardez la danse qu'ils font. Ils lui répondent, si ce n'était pas un malfaiteur, on ne te l'aurait pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. Et les Juifs lui disent, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ah, pourquoi est-ce que Pilate il dit, ben d'abord, jugez-le d'après votre loi? Parce que dès le début, il a reconnu que c'était un motif religieux qui les amenait à le condamner. Puis ils n'ont pas le droit de faire une condamnation à mort, mais il voit bien que c'est une chicane religieuse. Et il va le dire plus tard, je ne suis pas un juif, moi, tu sais, en voulant dire, il va essayer de se laver les mains de ça. Donc lui, il reconnaît ça tout de suite. Mais les Juifs insistent, puis ils disent, écoute, c'est parce qu'on veut le mettre à mort. Et comme j'ai dit au début, en introduction, ça fait 6 mois que le droit de punir de mort a été enlevé de la part des Romains. Donc, c'est les Romains qui avaient le droit de réserve là-dessus. Le verset 32, tout de suite après, c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Jésus avait commencé à parler à ses disciples et il disait, tu sais, quand vous voyez dans le livre de Jean, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il va dire ça à Nicodème, que le Fils de l'homme soit élevé. Élevé, ça ne veut pas dire monter dans les cieux, ça veut dire monter sur un poteau. Et Jésus avait déjà commencé à annoncer qu'il serait élevé et puis que les hommes seraient sauvés grâce à lui comme ça. Donc, il avait prophétisé sa mort. Mais la mort, comment on tuait quelqu'un chez le peuple juif quand on avait le droit de peine de mort? Par lapidation. Et Jésus dit, il faut que je sois élevé. Donc, Jésus avait déjà commencé à prophétiser que c'était par le peuple romain qui, eux, avaient depuis un certain temps la crucifixion, d'élever les hommes sur un bout de poteau. Puis, il y avait des prophéties dans l'Ancien Testament qui disaient « Maudit est celui qui est pendu au bois. » Et donc, Jésus allait subir la malédiction pour nous. Et c'est sur le bois qu'il a été cloué. Luc va vraiment mettre le point sur les accusations qui ont monté contre lui. Pilate dit au chef des prêtres et à la foule « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner, mais ils insistèrent en disant, il excite le peuple à la révolte en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée jusqu'où il a commencé jusqu'ici. Mais ils en disent plus. Luc 23, je vais aller le chercher parce qu'il y a plus que ça. 23, verset 4. On va commencer au verset 2. OK, en tout cas. Il pervertit la nation, il excite le peuple à la révolte. Hein? Il pervertit la nation, il amène des enseignements que les gens vont vouloir se rebeller contre Rome. Il empêche les gens de payer l'impôt à César. Donc, dans les versets parallèles, vous allez trouver ces choses-là. Il empêche de payer les impôts à César, et c'était faux. Quand est-ce qu'on peut voir dans l'histoire de Jésus que Jésus n'était pas contre l'impôt à César? Oui, on y amenait à un moment donné une monnaie. Hein? Oui. C'était vraiment un piège. Là. Ça, c'était vraiment un piège où ce que les gens ont essayé de. Est-ce qu'il nous est permis de. Puis s'ils disaient oui, ben ils montraient qu'ils étaient pour Rome. Puis s'ils disaient non, ils se montraient rebelles à Rome. Fait que dans les deux réponses qu'ils répondaient, ils se faisaient c'était un piège. Là. Une autre histoire dans la vie de Jésus qui montre que Jésus n'était pas contre payer les impôts. Oui? Oui? Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose à un moment donné? Hein? Non, pas exagéré nécessairement. Oui, c'est ça. Donc, à un moment donné, il dit à ses disciples de ne pas payer les impôts, puis il y a une calomnie qui avait couru, fait qu'il a demandé à Pierre de pêcher un poisson, puis c'était pas un cochon, c'était un poisson. Mais il avait trouvé de l'argent dans le poisson, finalement, puis il avait payé avec ça les impôts. OK, excellent. Donc, c'était faux. Il se proclame lui-même roi. Et ça, c'est une des accusations. Et c'est sur celle-là que Pilate va s'arrêter. Parce que s'il se proclame roi, ça veut dire que César a un rival. Et donc, c'est quelqu'un qui veut s'insurger contre le royaume en place. Et donc, l'interrogatoire va porter sur le troisième point, surtout sur le fait que Jésus se prend pour le roi. Et donc, est-ce que la question, c'est « Es-tu le roi des Juifs? » Hein? Parce que dans le fond, ça voudrait dire que César a un rival. Et regardez bien comment Jésus répond par une question à la question. Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Donc, Jésus répondait à des questions par des questions. Et regardez Pilate, qu'est-ce qu'il fait? Je suis juif, moi? Pilate répond à une question par une question. Et donc, il s'esquive de la discussion des choses de Dieu. Hein? Ça ne me regarde pas, moi, c'est des affaires religieuses, cette question-là. Et regardez, Jésus, il va répondre au verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Donc, Jésus est en train de répondre, « Oui, j'ai un royaume, mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Et c'est important ici, beaucoup de gens croient, ils vont prendre ce verset-là pour dire que Jésus ne viendra pas régner sur la terre au millénium. On va appeler ça la doctrine amillénariste, c'est-à-dire il n'y aura pas de millénium physique. Parce que Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mais Jésus ne dit pas, « Mon royaume n'est pas dans ce monde. » Il dit hein, qu'il n'est pas de ce monde. Il parle de l'origine de son royaume. L'origine du royaume de Jésus-Christ, ce n'est pas comme un gouvernement humain. Okay? Et donc, il ne trouve pas l'origine dans ce monde. Dans Jean 17, Jésus avait dit à propos des chrétiens qu'ils n'étaient pas du monde. Il a dit, « Vous n'êtes pas du monde comme je ne suis pas du monde, mais je vous ai envoyé dans le monde pour rendre témoignage. Hein? » Puis lui est venu pour rendre témoignage à la vérité. Donc, il dit, « Je ne te demande pas, Seigneur, de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » On disait ça dans la dernière prière dans Jean 17, avant le souper. Donc, ça veut dire que les chrétiens ne font pas partie du système du monde, comme le royaume de Dieu ne fait pas partie du système du monde non plus. Hein? Et donc, son royaume, c'est la même chose. Il y a plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament qui disent que Jésus-Christ va venir régner sur le trône de David et qu'il va avoir un trône éternel. Il va commencer sur la terre, mais il va avoir un règne qui ne se terminera pas, qui va continuer dans les cieux, finalement. Et là, Pilate lui répond, « Ah! » Oups! Ah, c'est ça. « Mon royaume n'est pas seulement... » Fait que là, Jésus va lui dire, « Tu es donc roi! » Moi, c'est juste revenir. OK. Excuse-moi, je suis perdu dans mes sacettes. Donc, tu es donc roi, et Jésus dit, tu le dis, je suis roi, et je suis venu, c'est pas là, je suis venu dans le monde, et c'est pour rendre témoignage à la vérité, et toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Donc, Jésus ici est en train de dire, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ceux qui écoutent Jésus-Christ sont de la vérité, ils ne sont pas du monde. Donc, un chrétien, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne chrétienne ou un disciple de Jésus-Christ puis une qui ne l'est pas? Eh bien, ceux qui écoutent Jésus-Christ sont de la vérité. Ils ne sont pas du monde, mais ils sont de la vérité. C'est que la vérité est venue, et l'évangéliste Jean le développe bien dans le chapitre 8, il va dire, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Les disciples, c'est ceux qui ont laissé la vérité venir, une vérité qui est venue mettre une lumière sur eux. Jésus dit, « Je suis venu rendre témoignage à la vérité. » Quelle vérité? La vérité, d'abord, à propos du Père. Dans Jean chapitre 1, il dit, « Personne n'avait jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Il est venu faire connaître son Père. » Donc, celui qui a vu Dieu, c'est Jésus-Christ, et il est venu le faire connaître. Il est venu nous faire parler, il est venu nous faire connaître le Père. Il est venu aussi dans Jean 1, au verset 12, et mais 10 à 12, il dit, « La lumière, il est la véritable lumière, qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. » Jésus est venu aussi nous montrer tout ce qu'il y a en nous, tout ce qui a besoin d'être pardonné en nous. Dans Jean 2, il dit, « Il ne se fiait pas à ces hommes-là qui le louangeaient, puis il disait Hosanna là, au début de son ministère, car il savait ce qu'il y avait en eux. » Jésus est venu mettre la lumière sur notre nature, sur notre besoin d'être pardonné pour qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le cœur de l'homme. Puis il est venu finalement nous montrer qui est celui qui est envoyé par Dieu. Il est venu mettre la lumière sur lui-même. Puis dans Jean 10, au verset 16, il dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans ce pâturage. Celles-là aussi, il faut que je les emmène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Hein? Donc, Jésus-Christ, ceux qui sont des véritables croyants, c'est ceux qui écoutent celui qui parle des cieux. Dans un autre chapitre de Jean, il va dire, c'est dans Jean 10, toujours dans le même chapitre, un peu plus loin, « Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans les certitudes? Si tu es le Messie, dis-nous-le franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur, mais vous ne me croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Les brebis du Seigneur Jésus, c'est ceux qui écoutent celui qui parle des cieux. Ils reçoivent la lumière sur le Père, la lumière sur eux-mêmes puis la lumière sur le Fils. Ils reçoivent la lumière et Jésus dit à Pilate, « Ceux qui sont de la vérité, ils écoutent ma voix. Ceux qui sont de la vérité, écoutent ma voix. » Et c'est pour ça, et même il avait dit dans la maison de Caïphe, « T'es-tu le Fils de Dieu? » Il dit, « Même si je vous le dis, vous ne me croirez pas. » Pourquoi? Bien parce que, étant donné qu'ils ne veulent pas croire les paroles qui sont données, ils n'acceptent pas la lumière qui vient et ne sont pas de la vérité. Et donc, ces mots-là viennent interpeller Pilate parce qu'il dit, Jésus vient de dire, celui qui écoute la vérité, eh bien, celui qui est de la vérité, il m'écoute. Mais Pilate, il n'est pas là pour écouter, pour se laisser convaincre, pour croire. Il est là pour faire un procès. Puis quand ça touche les affaires religieuses, ça, c'est des affaires religieuses. Des affaires religieuses, ça. Il s'esquive comme ça. Puis une des manières qu'il s'esquive aussi, c'est quoi? Qu'est-ce que la vérité? Ça vient aveugler complètement le monde et c'est une réponse tellement facile. C'est quoi la vérité? Donc, je suis plus responsable de la lumière qui est jetée sur moi parce que cette lumière-là qui est jetée sur moi, bien, dans le fond, c'est peut-être pas la vraie lumière. Dans le fond. Durant la discussion avec Pilate, Marc, on voit que si, quand vous lisez en parallèle, vous gagnez à faire ça. À un certain moment, Marc nous dit que Jésus reste silencieux. Je pensais que je l'avais mis. Donc, Marc, ça se trouve à être dans Marc 15. Marc 15. Les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations et Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien, mais tous les témoignages qu'il porte contre toi. » Mais là, au verset 5, « Mais Jésus ne répondit rien. » Ce qui étonna Pilate. À un moment donné, il y a ça de large d'accusations contre Jésus, puis Jésus ne dit rien. Il ne se défend pas. Il ne se défend pas. Et ça étonne Pilate parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées contre Jésus. Et là, Pilate va dire, où c'est qu'il va? Il va dire, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Donc, ça, c'est quoi? C'est du relativisme. C'est, on enlève l'absolu, il n'y a plus de réalité qui se tient. Tu as ta réalité, j'ai ma réalité. Et ce n'est pas juste un phénomène moderne. On voit là, Pilate qui dit, c'est quoi la vérité? Le relativisme, c'était bien vivant dans la culture romaine et ça l'aveugle Pilate et ça l'empêche de croire. Et regardez, il pose la question et il s'en va. Qu'est-ce que la vérité? Il ne veut pas avoir la réponse. Il ne veut pas donner de réponse. Ce n'est pas qu'il ne veut pas avoir la réponse à qu'est-ce que la vérité. C'est qu'il ne veut pas être obligé de donner de réponse. Et aujourd'hui, dans l'histoire de l'humanité, je pense qu'on est rendu vraiment à un endroit où la réalité ne se tient plus pour la réalité. Hein? Depuis les années 20, 1920, on appelait ça la ligne du désespoir. C'est que on est arrivé à un endroit où, si on veut être heureux, il faut arrêter de réfléchir. Parce qu'on n'a pas vraiment... Personne n'a de la vérité. Personne n'a une vérité. Et ça l'aveugle nos contemporains. Qu'est-ce que la vérité? C'est pas qu'ils veulent avoir la réponse. C'est qu'ils ne veulent pas être obligés de donner la réponse. Mais Jésus dit, celui qui est de la vérité, il écoute mes paroles. Hein? Donc, il aurait pu dire, qu'est-ce que la vérité pour que je la croie? Mais le relativisme, c'est un argument de choix pour abandonner la vérité. Hein? Et c'est sur ces mots-là qu'il est sorti à la rencontre des Juifs, puis a dit, pour ma part, je ne trouve aucun motif pour le condamner. Mais, comme Jésus, c'est un Galiléen, puis que l'autorité en Galilée, c'est Hérode, puis Hérode y est titre pour la Pâque, bien, je vais y envoyer. Fait qu'il va envoyer, dans le fond, Jésus. Hein? Il va l'envoyer devant Hérode. Et là, on a ça dans Luc 23, versets 6 à 12. Luc 23, versets 6 à 12. Donc, on est rendu dans la... Si on regarde, là, dans les procès, on est rendu dans la comparution devant Hérode. OK, donc on va lire Luc 23, versets 6 jusqu'à 12. À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Lorsqu'il apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, il lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Lorsque Hérode le vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait le voir faire des signes miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, se moqua de lui. Puis, après lui avoir mis un habit magnifique ou royal, hein, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Qui est Hérode? Hérode Antipas, c'est le fils d'Hérode le Grand. Hérode le Grand avait reçu de Rome le droit d'être appelé le roi des Juifs. Hérode le Grand, Hérode le roi des Juifs, c'est celui qui a fait tuer Jésus-Christ puis qui est mort 4 ans avant Jésus-Christ. Okay? Donc, il l'a pas tué Jésus, mais il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins à Bethléem. Et parce qu'il se disait, c'est qui le roi des Juifs qui vient de naître? Les mages étaient venus dire qu'il y a un roi des Juifs qui venait de naître, puis lui avait eu le titre de Rome d'être appelé le roi des Juifs. Il avait fait de grandes choses pour le peuple juif. Il avait refait rebâtir le temple. Hein? On appelait le temple d'Hérode. Donc, il est le fils de ce despote-là. Lui, Hérode Antipas, c'est celui qui a fait tuer Jean-Baptiste, qui a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Puis, dans le fond, il avait cherché Jésus. À un moment donné, il avait envoyé des gens, puis les pharisiens, ils disaient, Hérode te cherche, il veut que tu... Et Jésus avait dit, dites à ce renard. Puis là, il avait dit, garde, je vais faire encore quelques miracles, mais c'est pas bon que je meure en dehors de Jérusalem. Donc, il savait qu'il le cherchait pour le mettre à mort. Et donc, ça, on lit ça dans Luc 13. Et qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Sa femme s'appelle Hérodias ou Hérodiade, tout dépendant de vos versions. On est à la deuxième étape du procès civil, donc comparution devant Hérode. Et Hérode, lui, il veut avoir des miracles. Et Jésus n'a jamais fait des miracles pour épater des gens. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur le christianisme moderne qui veut être diverti avec plein de miracles? Ils veulent que Jésus fasse plein de miracles, mais ils ne veulent pas nécessairement entendre qu'est-ce que Jésus dit. Ils veulent que Jésus fasse des choses miraculeuses pour eux. Hein? Hérode veut voir un miracle. Jésus n'a jamais fait des miracles pour captiver les gens. Et à quelques reprises, on voit Hérode qui veut se faire divertir quand sa belle-fille Salomé danse devant lui, etc. Donc, c'est un roi, ou pas un roi, mais une autorité qui aime bien se faire divertir. Et Jésus, bien, il ne fait rien. Il reste là. Il ne dit pas un mot. Il ne va pas dire un mot pantoute devant Hérode. Et on va commencer l'accuser violemment. Donc, j'imagine que ce n'est pas juste avec des mots, l'accuser violemment. Mais on va le déguiser. On va le couronner. On va y mettre des vêtements, puis on va y mettre une couronne, puis on va le rire, on va le déguiser en roi, hein, puis on va se moquer de lui. Et là, on va le renvoyer à Pilate, puis les deux gars vont devenir des chums. Avant, ils étaient des ennemis. Les annales historiques nous racontent que Hérode, il y avait des boucliers sur les murailles, puis Hérode s'est plaint à Rome, puis a dit de faire enlever les boucliers qu'il y avait sur la muraille de Jérusalem. Puis Pilate avait été forcé par Rome d'enlever les boucliers qui étaient sa muraille. Et c'est comme si Hérode avait défié son autorité face à Rome. Hein? Et donc, il y a un froid qui s'est mis, là, une hostilité qui s'est mise entre les deux gars. Et Pilate avait été forcé de les enlever. Ça avait causé une genre de haine entre les deux. Et le respect de l'autorité de l'un et de l'autre était méprisé. Et en envoyant Jésus à Hérode, Pilate est en train de dire « Je reconnais ton autorité. Juge-le. » Et donc, ils ont partagé un même ennemi. Et on va voir ça des fois, des gens qui ne se parlaient pas avant, qui deviennent des amis parce qu'ils partagent un ennemi commun. C'est toujours assez comique de voir ça. Mais là, ils ont un ennemi commun et ça mène une solidarité les uns avec les autres. Et c'est ce qui est arrivé. Pilate, puis Hérode qui dit « Pilate me l'envoie, il fait confiance à mon autorité. » Fait que là, ils se sont comme flattés dans le dos un peu. Puis ce jour-là, Pilate et Hérode sont devenus amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Mais Hérode ne le déclare pas coupable, on va le voir. De toute façon, Pilate va le dire d'Hérode que Hérode n'a rien trouvé en lui aussi. Donc, c'est la deuxième comparution devant Pilate. Ça, c'est notre prochain point. Les versets pour ça, c'est Matthieu 27, 15 à 16, 15 à 26. Matthieu 27, 15 à 26. Marc 15, 6 à 15. Marc 15, 6 à 15. Luc 23, 13 à 25. Luc 23, 13 à 25. Puis Jean 18, 39 à chapitre 19, verset 16. Et nous, c'est ça qu'on va lire. On va lire, si vous allez dans Jean 18, on va lire du verset 39 jusqu'au verset 16 du prochain chapitre. Mais comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, ils crièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas! » Or, Barabbas était un brigand. Alors, Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voilà, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme !» Et lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent « Crucifie-le! Crucifie-le! » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve aucun motif de le faire condamner. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Verset 8. Quand il entendit cette parole, Judas eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, « C'est à moi que tu refuses de parler? » Je suis en train d'aller plus loin, non, jusqu'au verset 7. « C'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, j'ai le pouvoir de te crucifier? » Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. » Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Ils s'écrièrent, « À mort! À mort! Crucifie-le! » Pilate leur dit, « Dois-je crucifier votre roi? » Les Juifs, les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Et alors il leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Donc Pilate essaie depuis le début de le déclarer innocent. C'est plusieurs énoncés qu'on voit Pilate essayer de le déclarer innocent. Et dans le verset de Luc, on voit vraiment ça ici, regardez. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple et leur dit, « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Et donc, c'est clair pour Luc que le fouet, quand il s'est fait flageller, c'était pas Pilate, flagellation, crucifixion. C'était Pilate, flagellation, Pilate. Pilate essayait de les faire changer d'idée. Il l'a ramené. Il a reçu une peine exemplaire. Là. Okay? Relâchez-le. Je ne trouve rien qui est mal en lui. Et donc, il l'a fait fouetter pour le ramener ensuite. Et là, il trouve une autre manière. Pilate se gratte la tête. Il dit, je trouve un moyen de libérer ce gars-là. Il n'a pas fait ce qu'on l'accuse de faire. C'est un coup monté. Je ne peux pas. Il faut que je fasse quelque chose. Et donc, il dit, « Hey, vous avez une coutume de grâce. Hein? » Une coutume où ce que le jour de la Pâque, on relâche un prisonnier. Donc, on va faire ça. Et Pilate, d'une certaine manière, il leur présente Barabbas, hein, un criminel, et Matthieu nous dit que Pilate savait la jalousie des prêtres. Dans le verset de Matthieu, Pilate savait la jalousie des prêtres. Il savait que Jésus était populaire par son enseignement et qu'il était aimé du peuple à cause de ses enseignements. Donc, il s'est dit, je ne vais pas demander aux prêtres, je vais demander à la foule. Je le fais flageller, je sors Barnabas, je le mets à côté et je dis, gars, il y en a un qui est innocent de tout ce qu'on l'accuse, puis l'autre, c'est un bandit, un tueur. Fait que, tu sais, ça sera pas dur. Puis la foule qui a juste un petit peu une tête sur ses épaules, qui aimait les enseignements de Jésus, bien, les prêtres ils vont se faire enterrer par la foule. Tu sais. Fait qu'ils essayent comme de créer un momentum de la foule contre les prêtres. Mais il a sous-estimé le travail que les prêtres avaient fait dans la foule. Et son souhait, c'est que la foule choisisse Jésus. Barabbas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans les livres historiques, il est connu pour être Yeshua bar Abba. Qu'est-ce que ça veut dire, Abba? Père. Père. Bar, fils. Fils de son père. Yeshua, sauveur. Sauveur, fils du père. Il porte le nom du Seigneur Jésus et de son ministère. Il porte le même nom, Yeshua, puis Barabbas, c'est fils de son père. Il est le sauveur et le fils de son père. C'est comique quand même. Il porte le titre de Christ, mais Jésus-Christ porte ce qu'il a fait. Barabbas, il s'en va à la croix parce qu'il est accusé de sédition et de meurtre. Sédition, rébellion, on va essayer de virer le peuple contre César. Jésus est accusé de soulever le peuple contre César. Barabbas porte le titre du Seigneur, Jésus porte la condamnation de Barabbas. Quelle image extraordinaire pour nous montrer ce qui s'est passé à la croix, le juste qui est puni pour des injustes et l'injuste qui est libéré à cause du juste. Wow! Quel parallèle! Qui aurait pensé? La femme de Pilate a mal dormi cette nuit. Elle était bousculée, chavirée. Elle dit dans Matthieu 27 au verset 19, « Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, pendant que Barabbas est là avec « Voulez-vous que je libère lui ou lui? » Matthieu 27, 19, « Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « N'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Dans la culture gréco-romaine, et c'est pour ça qu'Hérode avait fait envoyer des gens pour chercher Jésus, parce qu'il pensait que c'était Jean à qui il avait coupé la tête qui était revenu. Parce qu'il y avait une croyance dans la culture gréco-romaine que si tu tues un homme qui était Dieu, bien, il ressusciterait pour venir prendre sa vengeance. Et là, si tu le tues, c'est juste là. Si c'est l'homme Dieu, peut-être païen, là, mais si c'est l'homme Dieu, eh bien, il va revenir pour prendre sa vengeance. Fait qu'elle a été troublée dans un rêve, a été shakée, ébranlée. Hein? Elle dit, cette nuit, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. On ne sait pas c'est quoi son rêve. On ne sait pas. Même moi, ce que je vous dis à propos de la mythologie, bon, c'est avec une bémol. Mais la tradition chrétienne nous dit que la femme de Pilate s'appelait Claudia et qu'elle s'est convertie à Jésus-Christ en la suite de ça. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Donc, dans une interruption, que sa femme vient y parler, tout ça, les textes nous disent que les prêtres allaient attiser la foule. Alors, quand Pilate est revenu devant la foule, puis il a dit, je fais quoi? Crucifie-le, là, la foule, avait comme une vague qui était partie. Et puis là, ils ont demandé de le crucifier. Et c'est là qu'il l'a fait fouetter pour satisfaire la soif de sang de la foule. Et ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est parce que là, je me suis dit, bon, on va revenir dans l'échange entre Pilate, qui a été dit, j'ai le pouvoir de te faire relâcher, tout ça. On va revenir dans la discussion. Mais je pense que juste la flagellation en soi mériterait qu'on s'y arrête un petit peu pour comprendre ce qui s'est passé. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Sinon, si mon royaume était de ce monde, j'aurais demandé à mes disciples de me défendre. On a commencé le message en disant, est-ce que je suis capable de dire que ton règne vienne? Puis, on a commencé aussi le message avec le portrait du Québécois typique qui ne veut pas que le règne vienne. Lui, il veut être heureux maintenant. On a vu dans mon message que Pilate, il ne voulait pas savoir la vérité. Il ne voulait pas avoir la réponse à « qu'est-ce que la vérité? » Il ne voulait pas être obligé de répondre à la vérité. Jésus est la véritable lumière qui, quand elle vient dans le monde, elle éclaire tous les hommes. On a vu qu'il est venu nous donner la lumière sur le Père. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le Père, lui, il nous l'a fait connaître. Il est venu aussi faire la lumière sur la véritable nature de ce qu'on est capable de faire en tant qu'humain. Je pense que l'histoire de la crucifixion, l'histoire de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ nous montre qu'est-ce que l'homme est capable de faire. Il est venu mettre la lumière sur nous. Jésus a dit à Pilate, celui qui est de la vérité, écoute ma voix. Il accepte que la lumière soit faite sur qu'est-ce que la vérité. Il accepte les réponses de Jésus sur ce que Jésus dit du Père, sur ce qu'il dit de moi, et c'est ce qu'il dit du Fils. Quand ça va bien, quand nos royaumes fonctionnent bien, quand notre barque ne prend pas l'eau, l'avertissement du livre des Hébreux, c'est « Faites attention de ne pas écouter celui qui parle. » Mais quand la barque commence à prendre l'eau, on commence à poser la question à propos du royaume d'en haut, de celui qui parle d'en haut. Donc, mon appel pour vous aujourd'hui et pour moi-même, c'est de laisser Jésus parler dans mon royaume. On a vu aussi Hérode qui, lui, voulait être diverti. Il ne voulait pas vraiment entendre parler de toutes les défenses que Jésus avait à donner. Lui, ça faisait longtemps qu'il avait entendu dire que Jésus faisait des miracles. Et il y a plusieurs personnes comme ça qui sont avec Jésus pour qu'est-ce qu'il pourrait faire pour eux. Ils ne veulent pas l'entendre parler. Ils veulent que leur situation se règle. Donc, celui qui est de la vérité. Jésus a dit, « Mes brebis, je les connais et elles entendent ma voix. » Donc, que ce soit aujourd'hui un moment pour réaliser qu'on n'a pas besoin qu'il y ait de l'eau qui rentre dans notre barque pour écouter la voix du Seigneur Jésus. Amen. On va remettre au Seigneur. Seigneur, d'abord, on veut te remercier pour merci d'avoir affronté les rois de la terre. Merci, Seigneur, d'être venu nous annoncer qu'il y avait un royaume à venir dont tu es le roi. Et le livre des Hébreux dit « Recevons un royaume inébranlable, Seigneur, puisqu'on t'a reçu, toi qui es le roi de l'univers. » On a reçu dans notre cœur un roi invisible et un royaume. On a reçu, Seigneur, une consolation que quand notre barque prend l'eau, eh bien, on a un roi qui a été lui-même, qui a vécu toutes sortes de choses pour nous, mais un roi qui nous promet consolation, restauration, tu nous promets réconfort. Et je veux te remercier pour ce royaume-là qui est inébranlable parce qu'on a reçu ce royaume-là dans nos cœurs en recevant ce roi-là. Puis même si notre vie est très, très fragile, même si elle tient à un fil, et même si on ne peut pas faire le projet de demain on fera ceci ou demain on fera cela parce que notre vie est comme une vapeur, une chose qu'on sait, c'est que si tu le veux, on va pouvoir faire ceci ou faire cela. Et une chose qu'on sait aussi, c'est que tu nous as demandé, une des premières choses dans le Notre Père, c'est d'aspirer à ce nouveau monde en disant que ton règne vienne. Seigneur, au début du message, on a prié et on a posé la question, y a-t-il quelque chose qui m'empêche de dire, Seigneur, tu pourras revenir, drette-là, maintenant. Puis on s'est dit que, mais c'est moi qui l'ai dit. Que si on ne pouvait pas le dire totalement, c'est qu'on était dans des projets qui étaient plus grands peut-être que l'agenda du royaume et que c'était une idole qu'on devait mettre de côté. Tu dis « Heureux les serviteurs qui se seront préparés à la venue de leur maître. Heureux le serviteur que le maître trouvera servant et veillant. » Merci de mettre dans nos cœurs ce désir que tu puisses revenir maintenant. Père, je te remercie d'avoir eu la possibilité d'apporter ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Et est-ce que Dieu vous bénisse à bon?
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.grâceetvérité.org.